Clotilde Seille, toujours en votre compagnie, mais pas toute seule, avec ses collaborateurs, ces fameuses voix de service qui vous accompagnent tous les matins sur Canal M de 9h à 11h45. Alors, à la une du Devoir ce matin, conflit israélo-palestinien, une nouvelle spirale de la violence est redoutée. Il n'en sera pas question ce matin avec Gisèle Lalande, mais elle aura d'autres sujets pour nous. Je l'accueille dans une douzaine de minutes à peu près. Transport, l'austérité libérale serait un frein à la transition énergétique, nous dit-on. À la une du Devoir, il en a été question avec l'ami Franceline. Devoir de mémoire en pleine campagne, avec photos à l'appui de ces manifestations. Quelques centaines de personnes ont pris part dimanche à Montréal à la marche commémorative du 4 octobre. Pour rendre hommage aux femmes autochtones assassinées ou disparues et ont demandé aux partis fédéraux de s'engager à tenir une commission d'enquête nationale sur la question. Également à la une du Devoir, pas d'études du BAP en Gaspésie. Trois projets d'exploitation financés par Québec seront traités dans le cadre de l'EES. Global sur les hydrocarbures, EES, c'est-à-dire évaluation environnementale stratégique. Et puis le point chaud du désamour des élites libérales pour les femmes, écrit Jessica Nadeau, avec en photo l'essayiste Aurélie Langteau qui affirme que les politiques d'austérité détruisent des années de gains féministes. Les libéraux n'aiment pas les femmes. Le titre est percutant et c'est voulu. Avec son premier essai sur l'impact des politiques d'austérité sur les femmes, Aurélie Langteau a voulu piquer le gouvernement de Philippe Couillard pour lui faire prendre conscience que derrière les écritures comptables se cachent des femmes qui sont de plus en plus fragilisées. Également dans le Devoir ce matin, il sera beaucoup question d'élection, bien sûr, et il sera question de cette vieille affaire de droit d'auteur. Il me semble que ça fait une éternité que cela dure. La maternité de Caillou, vous savez, ce petit personnage qui ressemble beaucoup à Mathieu sans la barbe. Donc Caillou, il s'avère que c'est encore une fois une affaire de gros sous. Mais c'est fou, il me semble que j'entends parler de ce conflit entre Hélène Députeau, l'illustratrice, et l'éditeur Chouette. En tout cas, ça dure depuis, des dizaines d'années. Je vous mens pas, j'avais déjà lu des choses sur le sujet il y a 20, peut-être même... Non, peut-être pas 30 ans, mais entre 20 et 30 ans. Alors, en attendant, on va se pencher vers les élections fédérales. J'ai quelques papiers, titres, bribes d'articles à vous lire. Alors, ce devoir de mémoire en pleine campagne, Florence Sarraget-Ferrari qui écrit « Les années se suivent et se ressemblent tristement lorsqu'il est question de l'assassinat et de la disparition des femmes autochtones au Canada et pour une dixième année consécutive, mais cette fois en pleine campagne électorale, quelques centaines de personnes ont pris part dimanche à cette marche commémorative du 4 octobre pour rendre hommage aux nombreuses victimes de la dernière décennie. » Ils se sont réunis sous un soleil éclatant, emmitouflés pour braver les premières fraîcheurs de l'automne. Ces participants se sont regroupés au centre du square Cabot, presque tous munis pour l'occasion d'un petit quelque chose en souvenir d'une disparue. Alors ici, des pancartes ornées de photographies, toutes des femmes souriantes, fixant l'objectif. Plus loin, un petit groupe qui distribue des étoiles en carton sur lesquelles les noms des victimes rappellent l'âge que ces dernières avaient au moment de leur disparition. Bonjour Gisèle qui vient de rentrer en studio, ça va bien. En exergue à ce papier, il y a quelques chiffres. Par exemple, 16%, les femmes autochtones représentent 16% des femmes victimes de meurtres et 11% des femmes disparues alors qu'elles ne comptent que pour 4% des femmes au Canada. Et puis on annonce une marche Montréal-Ottawa pour Radio-Canada, des défenseurs de la Société Radio-Canada. J'ai un petit peu sauter du coq à l'âne, mais c'est ce qu'on nous dit dans la même page, s'apprêtent à prendre le bâton du pèlerin. Ils se joindront à une marche citoyenne qui reliera les villes de Montréal et d'Ottawa. Le départ sera donné à la Maison de Radio-Canada mardi, alors que l'arrivée aura lieu au Parlement le 12 octobre. L'un des objectifs principaux de la démarche sera d'informer les électeurs au sujet du sort que les différentes formations politiques fédérales réservent à la SRC, pour qu'ils soient en mesure de voter en toute connaissance de cause le 19 octobre. L'événement s'inscrira dans le cadre d'une campagne plus large baptisée « Tous amis de Radio-Canada », dont le porte-parole est Pierre Maisonneuve. En entrevue, cet animateur et journaliste a indiqué que la marche servira également de prétexte pour expliquer aux citoyens rencontrés les impacts des compressions visant la société d'État. Et puis Mohamed Fahmy s'immisce dans la campagne, nous dit-on également dans le Devoir du jour. C'est Diana Mehta de la presse canadienne qui écrit que c'est au tour du journaliste Mohamed Fahmy, qui a été condamné en Égypte, on s'en rappelle, et emprisonné durant près de 2 ans, de s'inviter dans la campagne électorale avec un message pour tous les candidats au siège de Premier ministre. Ottawa doit en faire plus pour aider les Canadiens détenus à l'étranger. Monsieur Fahmy qui soutient qu'il ne veut pas trop faire de politique, mais il souhaite provoquer un dialogue national lorsqu'il arrivera à Toronto dans les prochains jours. Et je cite M. Fahmy, « Je vais commencer un débat constructif sur la manière dont le gouvernement canadien gère le dossier et sur la manière dont la politique étrangère pourrait être améliorée dans de telles urgences pour protéger les Canadiens qui pourraient se trouver dans des situations semblables à la mienne. » Ou pire, a-t-il expliqué en entrevue avec la presse canadienne, notre procès devrait faire l'objet d'une étude de cas qui pourrait bénéficier à beaucoup d'autres. Intéressant ce papier de M. Nadeau ce matin également dans le Devoir sur le mot harpeur, mais que je pourrais aussi prononcer harpé. H-A-R-P-E-R, qui fut un verbe d'usage courant, du moins au temps de Molière et de Sarrazin, nous apprend Jean-François Nadeau. En français, on l'employait lorsqu'il était question de prendre, que ce soit pour saisir ou pour dérober même. On pouvait dire, par exemple, harper quelqu'un au collet. Ou encore, ils se sont harpés aux cheveux. Les dérivés possibles étaient nombreux. Harpage, re-harper, centre-harper, se harper l'un l'autre. Je n'avais jamais entendu parler de ce verbe-là. Vous connaissiez le verbe harper?
Non, harponner, oui, mais harper,
oui.
Non.
Oui, mais peut-être que d'ailleurs,
c'est, probablement la même
c'est
racine,
sûrement la même racine.
Ça, voilà.
Alors, en 1962, nous dit Jean-François Nadeau, le premier dictionnaire de l'Académie française donne une définition de harper, qui s'écrit, je vous le rappelle, comme harpeur, prendre et serrer des mains avec violence. L'Académie tient à dire de ce mot qu'il est bas et populacier. Oh, populacier.
C'est pour ça qu'on l'a jamais entendu. Hein,
c'est pour ça qu'on l'a jamais entendu. Nous élevons bien au-dessus de ce débat. Synode, le pape fixe les lignes rouges. Pour François, le mariage reste avant tout une union entre un homme et une femme. Ils s'y sont mis à plusieurs de l'agence France Presse à la Cité du Vatican pour nous rapporter cette nouvelle. Le pape François a réaffirmé dimanche avec force le dogme catholique sur le caractère indissoluble du mariage, nécessairement célébré entre un homme et une femme, à l'ouverture d'un synode très attendu sur la famille. Jorge Bergoglio, particulièrement grave et préoccupé, a clairement fixé les lignes rouges que ce deuxième synode en 2 ans sur la famille ne devra pas dépasser dans une basilique Saint-Pierre pleine à craquer. « Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le défaire », a-t-il rappelé citant l'Évangile. En clair, Dieu unit les cœurs de 2 personnes qui s'aiment dans l'unité. Et l'indissolubilité a ainsi réaffirmé le pape dans un discours très ferme qui devrait rassurer les plus conservateurs au sein de l'Église. Et ce couple ne peut être que celui formé par un homme et une femme. Voilà, le rêve de Dieu pour sa créature bien-aimée a encore affirmé le pape François, la voir se réaliser dans l'union d'amour entre l'homme et la femme. La caricature de Garnotte ce matin nous présente Monsieur Stephen Harper à son petit déjeuner. Alors il est en train de, il s'est coupé une orange qu'il va presser. Et on s'aperçoit que le pressoir en tant que tel, donc l'espèce de petit obus là sur lequel on va presser l'orange,
harper l'orange,
ou même harper l'orange, voilà. Et bien sur laquelle il s'apprête à harper l'orange est une femme voilée. Genre on va lui presser le citron jusqu'au bout, quoi. C'est ça. Et puis juste quelques mots de l'éditorial de Madame José Boileau ce matin qui s'intitule « Pipeline 9B, l'auto-examen ». Elle dit « Impossible d'échapper à l'expansion pétrolière, les gouvernements n'en voient que les revenus à tirer et l'industrie les talonne de près ». Au Québec seulement, plus de 75 lobbyistes vantent les projets de transport par pipeline. On va donc de l'avant, en rassurant à moitié. L'autorisation qui vient d'être donnée à Enbridge d'inverser le flux de pétrole dans son pipeline 9B illustre bien ces sables mouvants, dit-elle. Jeudi dernier, les raffineries Suncor et Valero, de même que la Fédération des chambres de commerce du Québec, applaudissaient fort à la décision rendue la veille par l'Office national de l'énergie, l'ONE, d'autoriser la compagnie Enbridge à inverser le flux du pétrole transporté dans sa canalisation 9B. Mais citoyens et élus étaient loin d'en faire autant. La question n'est pas de savoir s'il y aura un déversement, mais quand ce déversement aura lieu, soulignait l'un des participants à l'Assemblée mensuelle de la communauté métropolitaine de Montréal jeudi matin. « Il serait bien léger de voir là de l'alarmisme, dit Mme Boileau. Pas quand le pipeline 9B a déjà une douzaine de déversements à son actif depuis sa mise en service en 1978. Pas dans un Québec post-lac mégantic qui sait les ravages, qui peuvent se cacher sous le transport du pétrole, quel qu'en soit le moyen. Le maire de Laval, Marc Demers, a eu bien raison de faire état de son malaise lors de la rencontre de la CMM, car ce sont les compagnies qui empochent, mais les villes qui ramassent. Dégâts et catastrophes. Il faut avoir confiance, dit Mme Boileau, qu'outre le fait de voir son flux inversé, la ligne B qui part de Sarnia en Ontario et se rend jusqu'à Montréal-Est sera utilisée à une capacité jusqu'ici jamais atteinte. Le pipeline pouvait jusqu'à maintenant transporter 240 000 barils par jour, mais il y a déjà un moment qu'on ne se rend plus à cette capacité. Il s'agira dorénavant de monter le flux quotidien à 270 000 barils, puis dans 2 ans, à 300 000 barils. Et je me tourne maintenant vers Gisèle Lalande. Gisèle, fidèle collaboratrice et précieuse collaboratrice du lundi. Comment
merci,
allez-vous?
Merci. Très bien, très bien. Je me prépare à vous abandonner pour 2 semaines, comme vous savez, parce que je pars en voyage. Mais ce matin, je suis là, toute là.
Vous allez où?
Je m'en vais en Italie pour exposer une mosaïque, parce que je fais également de la mosaïque. Alors, j'ai l'honneur d'avoir une mosaïque qui sera exposée à la Biennale de mosaïque contemporaine de Ravenne.
On veut voir une photo, on veut la diffuser dans notre infolettre.
J'apporterai la photo parce que la mosaïque sera en Italie jusqu'au mois de novembre.
Oh, mais félicitations!
Ben, merci beaucoup!
Oh, mais je veux voir ça, moi. Mais bravo, Gisèle!
Alors, c'est ma deuxième passion.
C'est vrai?
Oui, tout à fait.
En attendant... Il y a aussi la passion...
Ça reste la passion de l'information.
De l'information.
J'ai été piquée à ça quand j'étais toute petite. Cette semaine, j'ai retenu deux événements tragiques qui sont survenus et qui nous rappellent finalement pourquoi il y a tant de réfugiés qui arrivent en Europe. Ce sont les guerres en Syrie, la guerre en Afghanistan. Alors, du côté de la Syrie, ce que j'ai retenu, c'est le début des bombardements russes en Syrie. Ça a été fait vraiment, quand ça s'est produit, ça fait la une dans la grande majorité des journaux. Quand je dis les journaux du monde, il faut toujours faire attention. Ce sont les journaux qu'on appellerait de l'Occident, c'est-à-dire de l'Europe et de l'Amérique du Nord, un peu l'Amérique du Sud. Je suis allée voir dans les journaux en Asie, tout ça, c'était pas dans leur préoccupation. Et je veux commencer par un peu de une. Par exemple, c'était les grandes manchettes. Hein, dans le New York Times, les Russes frappent en Syrie, mais pas dans les zones détenues par l'État islamique, c'est le titre. Et tout ça amène... complex twist, complifie beaucoup, rend la situation beaucoup plus compliquée. Complexe, ça, c'est le complexe, c'est le New York Times. Dans The Guardian, la Russie envoie des bombardiers et fait monter les enchères en Syrie. Très gros titre avec des photos des zones dévastées par ces bombardements. Dans The Times, journal londonien, Poutine défie l'Ouest avec ses frappes sur les rebelles syriens. L'Italie, les raids en Syrie, les États-Unis disent arrêter. Dans El País, Moscou intervient à la défense du régime de Bachar el-Assad. Ça, c'est un élément important.
Oui.
Ça continue. La Russie lance ses frappes sur la Syrie. Ça, c'est le Washington Post. Les États-Unis mettent en doute quelles sont les cibles et je pourrais continuer longuement. Il y a beaucoup de une là-dessus. Mais je vais aller avec quelques articles pour permettre de préciser un peu ces enjeux. Avec d'abord un article dans Libération qui est intitulé « Que vise Poutine en Syrie ?». Alors, ce qu'on écrit, c'est officiellement la Russie accentue son engagement aux côtés du régime de Damas pour lutter contre le terrorisme, entre guillemets, mais les cibles des bombes inquiètent les Américains. Le problème, c'est que Poutine n'a pas la même définition de ce que sont les terroristes à abattre. Et on souligne aucune des 20 dernières frappes de l'aviation russe en Syrie menées mercredi et jeudi matin n'ont visé l'État islamique. Les bombardements, à l'inverse, ont ciblé des groupes rebelles, aussi bien islamistes que modérés, qui combattent justement les djihadistes du califat d'Abu Bakr al-Baghdadi, qui sont l'État islamiste, et qui combattent le régime Assad. Et j'ai apporté une carte que j'ai recoloriée, parce que je n'ai pas d'imprimante couleur, qui était dans Libération, permet très bien, parce que sinon on ne comprenait pas la carte, qui permet de voir très bien effectivement comment, à quel endroit les Russes ont frappé. Alors, il y a toute une zone ici, à l'est de la Syrie, où est installé l'État islamique. On voit qu'il n'y a eu aucun bombardement dans cette zone-là et que la zone qui a été, les deux zones qui ont été bombardées sont précisément les zones où sont situées l'armée, ce qu'on appelle l'armée russe, l'armée syrienne libre, ceux qui combattent le régime de Bachar el-Assad.
Donc, oh là là.
On voit que c'est beaucoup plus un soutien à Bachar el-Assad. Alors, on s'interroge, qu'y a-t-il derrière la stratégie de la Russie? On dit qu'il est essentiel pour Poutine de redevenir un acteur principal dans la région et une grande puissance sur la scène internationale et de montrer que la Russie a des intérêts très importants, pas seulement dans son étranger proche, ce qu'on appelle en Russie l'étranger proche, comme l'Ukraine. Tout ça est très, très stratégique, très calculé. Et il y a un article, justement, dans le quotidien Le Monde qui était repris dans Le Devoir cette semaine, qui va tout à fait dans le même sens. Le titre « Comment Poutine est revenu au centre du jeu diplomatique ». Bon, dans tout le début de l'article, on explique tout le chemin que depuis 3 mois, Poutine a accompli pour essayer de revenir un acteur important sur la scène internationale. On sait qu'il avait été écarté, mis au banc depuis la guerre en Ukraine, depuis l'annexion de la Crimée. Et là, il veut redevenir l'acteur important. Alors évidemment, j'ai surtout retenu la fin de l'article où il est plus précisément question de la Syrie. Alors on écrit, bon, après tous ces mois de travail, le résultat est là. Non seulement Vladimir Poutine est de retour sur la scène internationale, mais c'est lui qui donne le tempo. Pendant que les responsables occidentaux semblent tergiverser sur la marche à suivre, Vladimir Poutine propose une réponse simple à l'inextricable guerre syrienne. Cette réponse porte un nom, Bachar al-Assad. L'alliance avec le président syrien serait la clé pour vaincre l'État islamique, quand bien même sa politique a largement contribué à garnir les rangs de l'organisation terroriste.
Mais oui.
Alors aujourd'hui, toujours dans Le Monde, il ne s'agit plus simplement de sauver le régime Assad, mais d'en faire la pièce maîtresse sur l'échiquier proche-oriental et dans le même temps d'apparaître un protecteur de la civilisation et des minorités opprimées. Et on dit que cette décision de Poutine, là, il y a un autre facteur qui a joué, il est très habile, la crise des réfugiés en Europe. Poutine est un très bon tacticien, souligne l'analyste Fyodor Loukianov, qui est membre du Conseil pour la sécurité et la défense de la Russie, donc qui connaît très bien ce qui se passe au Kremlin. Il sait que cette crise contribue à modifier le point de vue des sociétés occidentales, y compris en Allemagne, en renforçant l'idée qu'il faut faire quelque chose sur place. Cela deviendra donc compliqué de critiquer la Russie.
Sans compter que c'est une véritable poudrière, hein, tout ça, parce que je ne sais plus dans quel papier, justement, français, il y avait, je pense que c'est dans le Nouvel Obs, et c'est notre ami Thibaut Temmerman qui nous a lu ça la semaine dernière. Je ne sais plus quel journaliste disait que c'était, qu'en ce moment, tout était favorable à ce que ça développe éventuellement une troisième guerre mondiale, cette affaire du fait que du côté de Poutine, c'est pro Bachar al-Assad, mais du côté, par exemple, de Hollande et des autres...
Oui, mais c'est toujours la même chose depuis quelques temps. Ces guerres mondiales sont toujours jouées sur le terrain des autres. On ne les joue pas chez nous, ni chez les Russes, ni chez les Occidentaux. On s'arrange pour aller se battre sur un autre petit terrain.
Ouais. Bien vu. Un autre point chaud, c'est l'Afghanistan.
Oui,
Gisèle Lalande.
Oui, et l'Afghanistan, dont on parle beaucoup moins depuis quelques mois, je dirais un an ou deux, parce que les soldats canadiens sont revenus. Mais il s'est produit un événement tragique, je pense que tout le monde est au courant maintenant, le bombardement d'un hôpital de MSF en Afghanistan. Ça s'est produit samedi, c'est dans l'hôpital de Kunduz, qui est la principale ville du nord-est de l'Afghanistan. Selon les derniers bilans, au moins 22 morts, 12 membres du personnel d'MSF et 10 patients. Et on parle de dizaines de blessés, des gens qui étaient déjà blessés auparavant.
Je dis juste que MSF pour Médecins sans frontières,
exactement.
Je le précise.
Oh, oui, vous faites bien. Alors, cette nouvelle-là, contrairement à celle des bombardements russes, a pas vraiment fait la une. Bon, il faut dire que ça s'est produit samedi. Très peu de quotidiens sortent le dimanche. Sauf aux États-Unis, où le quotidien du dimanche est un quotidien sacré. On sait, le gros New York Times du dimanche. Ouais, c'est la même chose pour le Los Angeles Times. Alors là aussi, je vous ai gardé quelques... J'ai retenu quelques-unes. Parce que le choix des mots dans les titres, ça nous apprend toujours beaucoup comment on a vu. Alors, je commence par un moins grand journal, Philadelphia Inquirer, le journal de Philadelphie. Une attaque sur un hôpital afghan a fait 19 morts. On n'avait pas le bilan complet.
Officiel, oui.
En sous-titre, la responsabilité demeure peu claire. Donc, pas de responsabilité américaine. Le Boston Globe, le grand journal de Boston, le bilan d'une frappe aérienne en Afghanistan suscite l'indignation. En sous-titre, un hôpital de Médecins sans frontières frappé par ce qui semble être une attaque américaine. Dans le Los Angeles Times, on y va un petit peu plus durement. Horreur dans un hôpital en Afghanistan. C'est en une, mais en bas de page. 19 personnes tuées dans ce qui semble être une attaque américaine, ce qui met en lumière les risques du rôle américain. Donc déjà, on commence à être un petit peu plus inquiet de ce qui s'est passé. New York Times, les États-Unis blâmés après le bombardement d'un hôpital en Afghanistan. Le Washington Post, à peu près le même titre, l'hôpital en Afghanistan frappé, les États-Unis blâmés, on est toujours plus clair. Et dans la Stampa, je l'ai pris parce que dans les journaux italiens, c'est une presse un peu particulière où là, on y va toujours un petit peu plus directement sans prendre le temps.
Oui.
Alors, l'OTAN, parce que c'est quand même l'alliance de l'OTAN, se trompe de cible, massacre dans un hôpital afghan. Alors là, c'est très clair. Bon, évidemment, c'est beau les titres, mais pour comprendre, des fois, il faut aller un petit peu plus loin.
Plus loin. Alors, pourquoi, comment...
Exactement. Le pourquoi, évidemment, on sait un peu là, qu'en ce moment, à Kunduz, les talibans avaient repris la ville et les alliés voulaient la reprendre. Bon, on savait qu'il y avait des combats depuis une semaine, mais plus précisément, l'attaque sur l'hôpital de MSF. Je reprends un article du Monde qui n'était pas publié dimanche, donc c'était un article sur leur site où on écrit « Si les États-Unis n'ont pas reconnu être responsable du bombardement de l'hôpital. Selon MSF, Médecins sans frontières, tout indique que c'est la coalition qui l'a mené. Un peu plus loin, on nous explique que le porte-parole de la mission de l'Alliance Atlantique en Afghanistan, de l'OTAN, donc le colonel Brian Tribush, je ne sais pas comment le prononcer, a confirmé dans la matinée que les forces armées américaines avaient mené une attaque aérienne sur la localité à 2h15 heure locale, qui est l'heure où l'hôpital a été bombardé. Il a reconnu que les frappes avaient peut-être provoqué un dommage collatéral sur un bâtiment médical situé non loin de la cible visée. Ce à quoi la présidente de l'association humanitaire a répliqué, nous ne pouvons pas accepter que cette horrible perte de vie puisse simplement être résumée à un dommage collatéral.
C'est
exactement.
Pas possible.
D'ailleurs, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, lui a estimé que si la frappe était reconnue comme délibérée, elle pourrait constituer un crime de guerre.
Un crime de guerre.
Carrément, oui. Dans Libération, on a publié dans le journal papier de ce matin, ça m'a un petit peu étonnée quand j'ai fait le tour, vraiment un tout petit billet, c'était vraiment pas leur sujet important aujourd'hui, mais le billet est quand même intéressant. On écrit « Les États-Unis font, c'est le titre, font profil bas après les 19 morts de Kunduz ». On était toujours avec le mauvais chiffre au moment où on a publié. On écrit « De la compassion, mais pas d'excuses ». Dans sa première réaction au bombardement de Kunduz, Barack Obama a assuré le service minimum. Il y a toujours ce ton un peu sarcastique de Libération, adressant ses plus profondes condoléances aux victimes de ce « guillemets tragique incident ». À peine plus loquace, le Pentagone a fourni quelques éléments permettant de dessiner le scénario du drame. Peu après 2h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, des soldats américains déployés à Kunduz auraient été pris pour cible par des talibans. Ils réclament un soutien aérien immédiat. À 2h15, un avion américain bombarde les insurgés qui se trouvent à proximité de l'hôpital de Médecins sans frontières. Cette frappe, on reprend toujours cette même phrase, on cite le général en question, a pu causer des dommages collatéraux à un bâtiment médical. Selon MSF, pourtant, les frappes se sont poursuivies plus de 45 minutes, et ça après qu'ils aient averti les armées afghanes et américaines des premiers tirs. On dit les impacts étaient très ciblés sur le même bâtiment. L'avion est parti, puis il est revenu pour donner une suite d'une série de nouveaux impacts exactement sur le même bâtiment. De quoi mettre sérieusement en cause la version du dommage collatéral. Et on sait que ce matin, MSF a annoncé qu'elle se retirait
de Kunduz.
Donc, il n'y aura plus dans cette région de l'Afghanistan aucun hôpital sérieux, qui peut sérieusement faire face aux blessés.
Oui, c'est ça. J'ai entendu la docteure Liu, justement, qui en parlait. Et c'est ça, donc, qu'il se retirait. Vous avez une petite brève, si vous voulez. Il vous reste 45 secondes. C'est comme
oui, alors écoutez, je vous le dis très rapidement. C'était sur le site du Guardian ce matin. C'est un extrait d'une émission de télévision de la chaîne Rossiya 24. C'est le bulletin météo, mais tout ce bulletin météo, évidemment, ils ont fait un texte pour nous aider à comprendre, est basé sur les prévisions météorologiques sont favorables pour les frappes aériennes en Syrie. Alors là, on explique qu'il n'y a pas beaucoup de vent, qu'il n'y a pas beaucoup de pluie à ce temps de l'année, qu'il n'y a pas beaucoup de tempêtes de sable, etc. Et c'est un bulletin météo et on donne la météo pour les bombardements.
Pour les bombardements.
La bonne météo pour les bombardements en Syrie. C'est
Gisèle,
absolument incroyable.
Vous allez nous manquer. Il me reste 5 secondes pour vous souhaiter un bon voyage en Italie. Vous nous revenez dans 2 semaines.
Exact.
Alors, première participation aux séries éliminatoires depuis 1993. Les Blue Jays de Toronto seront confrontés aux Rangers du Texas. C'est à compter de ce jeudi au Centre Rogers. Je vous en dis plus immédiatement au sport. C'est un texte signé Pierre Durocher dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui qui relate le premier affrontement de la ronde entre les Blue Jays de Toronto et les Rangers du Texas dans les ligues majeures. Ça va être du très bon baseball, a commenté Russell Martin après la défaite de 13-2 subie hier aux mains des Rays de Tampa Bay. Tout comme nous, les Rangers ont excellé en fin de saison pour se qualifier pour les séries. À vrai dire, toutes les équipes sont bonnes dans les éliminatoires. L'identité de nos rivaux ne change rien à notre approche. Il va falloir être à notre mieux. Il a fallu attendre au 162e match de la saison régulière pour déterminer les adversaires dans les séries. Les Blue Jays avaient toujours une chance de terminer au premier rang du classement général. Ils complètent la saison avec une fiche de 93-69, comparativement à un dossier de 95-67 pour les Royals de Kansas City, qui se mesureront vainqueurs du match suicide entre les Yankees de New York et les Astros de Houston. John Gibbons a choisi de donner au vétéran Mark Buehler la chance d'atteindre le cap des 200 matchs lancés pour une 15e saison d'affilée, ce qui lui aurait permis d'égaler l'exploit réalisé par les légendaires Cy Young, Ryan Spahn, Dan Sutton et Gaylord Perry. Il ne manquait que deux manches de travail à Buehler, qui avait lancé durant 6 manches et 2/3 vendredi face aux Rays. Il a toutefois dû quitter le monticule après 2 retraits seulement en première manche après avoir accordé un grand chelem à Joey Butler. On aurait aimé qu'il obtienne ce record, mais ce n'est pas bien grave, a dit Martin. On a commis 2 erreurs en défensive qui n'ont pas du tout aidé sa cause. Il a vraisemblablement participé à son dernier match avec les Blue Jays, puisqu'il ne fera pas partie de la formation de 25 joueurs pour les séries éliminatoires, a-t-on appris. C'est une situation inusitée lorsqu'on pense que Buehler présente une fiche de 15 victoires et 8 défaites. Il est écarté de la rotation des lanceurs partants pour les éliminatoires en raison des solides prestations du jeune Marcus Stroman en fin de saison. Les 4 partants des Blue Jays dans les séries seront dans l'heure de David Price, Marcus Stroman, Marco Estrada et R.A. D.K. Je rappelle que c'est un texte de Pierre Durocher dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Comment je prononçais le nom? Je me demandais si je prononçais bien le nom du lanceur des Blue Jays, Buehler, mais il me semble bien. En fait, c'est écrit B-U-E-R-H-L-E, Buehler. Il me semble que c'est la prononciation adéquate. En tout cas, j'espère. Sinon, s'il m'écoute, je m'en excuse. On passe maintenant au tennis. Eugénie Bouchard, qui a d'ailleurs abandonné ce matin à l'Omnium de Chine à Pékin. On apprend dans le Journal de Montréal qu'elle va bientôt s'entraîner avec l'ancien entraîneur de Sharapova. Eugénie Bouchard se serait trouvée une nouvelle entraîneur pour la durée de sa tournée asiatique. La Montréalaise serait sous la supervision du Suédois Thomas Högstedt, qui a notamment dirigé de grosses pointures comme Sharapova, mais aussi la Danoise Caroline Wozniacki. Plusieurs médias à travers le monde, dont le site internet Yahoo Sports, ont rapporté la nouvelle au cours du week-end. Des photos de Bouchard et Högstedt à l'entraînement ont d'ailleurs été publiées. L'homme de 52 ans a par ailleurs travaillé avec Tommy Haas, Daniela Anzulachova, Sloane Stephens, Simona Halep, ainsi qu'avec l'équipe féminine de Chine. La Montréalaise Eugénie Bouchard devrait effectuer un retour au jeu à la compétition dans la nuit de dimanche à lundi, donc c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Elle a finalement dû abandonner, c'est sorti il y a quelques instants dans le journal La Presse. Mais le texte que je viens de vous lire, c'en est un de l'agence QMI. Le calendrier préparatoire de la saison de la LNH tire à sa fin. Et il y a un article très intéressant dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, une entrevue avec Stéphane Quintal, le préfet de discipline de la Ligue, le titre « Du hockey plus civilisé ». Il y a encore une dizaine d'années seulement, les matchs préparatoires pouvaient être remplis d'incidents violents. Chaque formation avait au camp d'entraînement au moins 4 ou 5 joueurs peu talentueux, mais qui souhaitaient se démarquer en jetant les gants, ou pire, en y allant de mise en échec percutante, avec l'objectif de blesser l'adversaire. En 2015, ce type de joueur n'existe plus, ou presque. La preuve, seulement 40 d'incidents ont été revisés par le département de sécurité, et seulement 2 gestes ont mérité une audience avec Stéphane Quintal. Le 22 septembre, Jason Aikison des Sabres avait donné une mise en échec à la limite de la légalité à Colin Greening des Sénateurs, mais il y avait peu d'angles de caméra de disponibles et il n'a pas été suspendu. Samedi, Rafi Torres des Sharks a frappé Jacob Silfenberg à la tête et c'est la seule suspension des matchs préparatoires qui a eu lieu. Les statistiques démontrent clairement que la création du département de sécurité de la LNH est un vif succès. C'est lors de la saison 2011-2012 que ce département a vu le jour. À l'époque, 896 incidents ont été revisés et Brendan Shanahan, le préfet de discipline de l'époque, avait dû suspendre 55 joueurs. Lors de la saison 2014-2015, 633 incidents ont été revisés par le département, ce qui représente une baisse de 30 % par rapport à la saison 2011-2012. Seulement 28 joueurs ont été suspendus, ce qui veut dire qu'il y a 49 % moins de suspensions dans l'ALNH qu'il y a 4 ans. C'est un progrès énorme et celui qui est maintenant à la tête du département de la sécurité, Stéphane Quintal, sait que les efforts des dernières années ont porté leurs fruits. Il dit « C'est en 2011 que le règlement 48 est arrivé, c'est le règlement qui porte sur les coups à la tête, et les joueurs ne s'y étaient pas encore habitués. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de suspensions. Depuis, on a passé beaucoup de temps à les éduquer, que ce soit au camp d'entraînement ou encore à Washington, où chaque année, on rencontre 90 joueurs recrues pour leur expliquer ce qui est légal ou non. C'est sans compter le nombre de joueurs à qui je parle dans la saison pour les prévenir que certains gestes sont limites. Rappelez-vous, avant la saison 2011-2012, il y avait une certaine confusion sur ce qui était un geste classé reprochable ou non, mais depuis, chaque suspension est expliquée via vidéo. Bref, il n'y a plus de surprise. » Un autre texte de Pierre Durocher dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. C'est titré « Un Montréal responsable du marketing ». Darcy Raymond, qui a grandi à Montréal et qui parle bien français, est le vice-président marketing des Rays de Tampa Bay dans la MLB depuis 10 ans. Il croit toujours en l'avenir de l'équipe dans le marché de la Floride et si Montréal retrouve un jour son équipe de baseball, il croit que ça se fera par la voie d'une expansion comme en 1969. Le commissaire Rob Manfred n'a-t-il pas clairement exprimé la semaine dernière en parlant d'une future expansion au Mexique et au Canada dans le but d'avoir 32 équipes, a lancé Raymond. Âgé de 41 ans, ce diplômé à l'Université Concordia a été jadis un chaud partisan des expos. Il applaudissait les Marcus Grimson, Larry Walker, Pedro Martinez et compagnie. Raymond souhaite que le baseball majeur revive un jour à Montréal. Il a tenté, il y a quelques années, d'emmener une équipe de calibre 2A à Verdun et il constate que la ville a maintenant un maire, Denis Coderre, qui entend faire bouger les choses. Sa préoccupation est toutefois de trouver les moyens de stimuler l'intérêt pour les Rays dans la région de Tampa Bay. Raymond ne panique pas au sujet des faibles assistances au Tropica Field, dont la moyenne de 15 400 spectateurs est la plus basse dans la Ligue. « On ne peut plus accorder autant d'importance aux assistances », a-t-il indiqué. « Aujourd'hui, avec la télévision et les nouveaux moyens de communication, on peut aller chercher l'attention des amateurs en utilisant d'autres avenues. Les modèles pour obtenir des revenus ne sont plus les mêmes. Les codes d'écoute à la télévision pour les matchs des Rays sont à la hausse et la Floride est la région où la population augmente le plus rapidement au pays. Il faut donc se montrer patient de conclure des Raymond. » VP Marketing à Montréalais pour les Rays de Tampa Bay qui souhaitent un retour des expos à Montréal, moi aussi. Et finalement, une dernière nouvelle en attendant que Clotilde se joigne à moi. C'est une nouvelle que j'ai choisie tout particulièrement pour elle puisque... le Vert et Or a remporté son match en fin de semaine dernière contre les Carabins de Montréal. Et je me rappelle qu'en début de saison, on s'était demandé laquelle des deux équipes allait connaître le plus de succès.
Ils ont gagné par combien?
Ils ont gagné par 17-12 face aux Carabins de l'UDM. Wow. Donc, le corps arrière, Jérémy Rock, dit franchement, on n'en a pas parlé une seule fois jusqu'ici cette saison. Et je crois sincèrement que c'est la dernière chose à laquelle il pense pendant un match au sujet de la chasse au record, mais qui se dit bien satisfait en dépit de ses 1384 passes tentées, de cette victoire de 17-12 face aux hommes en bleu de l'Université de Montréal. Ça avait lieu samedi à Sherbrooke. Donc, victoire pour le Varian.
Et t'as attendu que je sois dans le studio?
J'ai décidé que ça allait être ma dernière nouvelle juste pour pouvoir te le mettre sur le nez.
Et si vous voyez le sourire méchant, mais méchant... Mais j'avais même pas que t'avais autant de dents, tellement tu ris. Ça pas de bon sens.
J'ai autant de méchanceté que j'ai dedans.
Ah là 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 là, bon, alors sans rancune. À plus tard.
À plus tard, je reviens pour le bulletin, moi.
Pour le bulletin du handicap, oui, j'y ai pensé ce matin, je l'ai même annoncé. Merci beaucoup. Enfin bon, merci, façon de parler. Bon, attends, on va arranger quelque chose. On peut mettre de la musique. C'est pas grave. Thank you. Et voilà, donc merci beaucoup à Kevin et puis bienvenue à notre amie Marianne.
Bonjour Clotilde.
Ah ben oui, moi ça me prend la petite flûte. Moi, ça me prend la petite flûte avant de vous accueillir. Comment allez-vous?
Très bien, je serai moins méchante que Kevin.
Ah, il a été épouvantable. Moi qui me disais, ah, quel bon collègue et tout, mais il est méchant, c'est une teigne. Alors, vous, Marianne, belle fin de semaine?
Belle fin de semaine, et en ce lundi, je pose une question qui est assez pertinente, et ça vient d'un article signé Sylvia Galipeau dans La Presse Plus. Une question que je vous lance à vous, Clotilde.
Allez-y.
C'est quoi au juste une famille? Et c'est une question plutôt judicieuse, surtout en 2015, où on sait qu'une famille, ça peut être bien des choses. Et Sylvia Galipeau commence son article ainsi. Un couple, un clan, des amis, des parents, du temps passé ensemble, mais avec qui exactement? Entre le portrait du couple d'amis qui décide de devenir parent sans être amoureux, parce que être parent, c'est être en relation, comme des amis, des collègues ou des chargés de projet, et la famille adepte de la simplicité volontaire et de l'école à la maison, l'antithèse du parent absent, en passant par le couple qui vit sous le même toit que la belle-mère. Aussi éclaté soit-il, ces portraits ont été brossés par de jeunes réalisateurs et ça a été l'objet de 4 courts documentaires diffusés un petit peu plus tôt cet été sur les ondes de MaTV.
OK.
Donc, la journaliste continue. Elle a interrogé France Paradis, elle, chroniqueuse et auteure de plusieurs ouvrages sur la famille. Et cette chroniqueuse et spécialiste de la famille expose la famille sur 4 angles. Okay. Donc, 4 choses à retenir sur la famille. Tout d'abord, il y a la famille qui est en quête de repères. Depuis au moins 25 ans, on cherche ce qu'il y a d'essentiel dans la famille. La famille est-elle un projet personnel? Peut-on être des parents sans être des amoureux? Qu'est-ce qui est existentiel dans la famille au fond? C'est clair et fondamental à quel point on cherche de nouveaux repères de définition de la famille. Il y a aussi, d'après toujours France Paradis, la famille multiple. Il y a beaucoup de façons de vivre les liens de la famille et de les nourrir. On a vraiment quitté le carcan de la famille nucléaire. Hein, la famille nucléaire, c'est-à-dire famille, entre guillemets, dite normale, papa, maman et les enfants.
Les parents, quoi.
Et les parents, voilà. En témoignent les familles reconstituées, les familles adoptées, qui vivent en ville ou à la campagne, de parents en couple et amoureux ou pas, comme on l'a vu dans ces documentaires-là. Il y a aussi le modèle... En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas de modèle unique, finalement.
Oui, c'est ça.
Les parents de nos jours sont très, très au fait qu'ils n'ont pas nécessairement raison, qu'il n'y a pas de façon unique de faire, qu'ils se cherchent, qu'ils cherchent des réponses, des alternatives également. Tout peut être bon, au fond, dans ces différents choix-là. Il suffit d'être bien dans ce que l'on adopte. Et finalement, la famille de nos jours, en 2015, ça demande beaucoup de courage. C'est le dernier constat. France Paradis rappelle, ça me frappe à quel point cela prend du courage pour être cohérent dans les choix que l'on fait. Faire des choix différents et s'assumer, c'est difficile, et particulièrement en famille, parce que c'est fondamental. Et tout ça, Clotilde, parce que tout à l'heure, je reçois à mon émission, c'est bon pour la santé, 14h, Julie Gosselin, spécialiste de l'adaptation des familles recomposées. Elle est également psychologue. C'est la seule spécialiste au pays, au Canada, à s'intéresser à cette question-là, plus particulièrement le rôle de la belle-mère. Elle s'interroge là-dessus, donc on discutera avec elle de famille recomposée et aussi de ce fameux rôle-là de la belle-mère.
Très, très intéressant. Mais moi, je me disais, en vous écoutant me parler de ce sujet-là et de cet article-là, je me disais que c'était encore une fois relié beaucoup à la modernité occidentale, parce que lorsque vous allez encore dans les vieilles civilisations, on parle encore du clan. On parle encore du clan. Un jour, j'entendais un comédien, je ne sais plus lequel, disant « Moi, je suis un gars de clan. Moi, là, si tu touches à quelqu'un de ma famille, je mords. » Vincent Gratton, pour ne pas le citer. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que finalement, c'est vrai que ça devient de plus en plus rare. On sait qu'avec les divorces ou même avec les départs à l'étranger... Moi, je vois, j'habite à l'étranger. Moi, ma famille, ici, ce sont plus les amis, ma famille. Ou ici, ma gang, par exemple.
Mais en même temps, le clan s'élargit parce que les enfants de nos jours ont bon, 6 grands-parents, 8 grands-parents, la belle-mère, le beau-père, les parents, les demi-frères, les demi-sœurs et tout ça. Donc, ça fait encore plus de monde autour de la table. Après ça, comment
et au mariage.
L'épicerie coûte cher.
L'épicerie coûte cher. Alors, on va vous entendre cet après-midi à 14 heures, notamment avec Mme Gosselin, c'est ça? Spécialiste des belles-mères.
Et de la famille recomposée.
Et de la famille, bien sûr, recomposée. Merci beaucoup. Et on s'en va en région maintenant. J'ai commencé par ce papier que j'ai trouvé dans Le Droit. Au revoir Marianne, bonne semaine. Sur l'intégration des immigrants par l'entrepreneuriat. Il s'avère que Gatineau est un modèle, dit Veil, la ministre évidemment, Kathleen Veil. La ville de Gatineau est un modèle d'intégration des immigrants grâce à ses nombreuses initiatives pour stimuler l'entrepreneuriat, soutient la ministre de l'Immigration du Québec, Kathleen Veil. De passage en Outaouais, à l'occasion de la Foire des entrepreneurs interculturels de Gatineau-Ottawa hier, Mme Veil a vanté diverses stratégies propres à la région. La ministre a entre autres nommé le Service Intégration Travail Outaouais, le CITO. En disant le CITO est un modèle. On voudrait pouvoir reproduire le CITO partout au Québec, a dit la ministre. Le CITO qui a pour mission l'intégration économique des personnes immigrantes à la société d'accueil. Chaque année, l'organisme contribue au placement en emploi de près de 250 personnes. Pour Kathleen Veil, l'accueil d'immigrants et de réfugiés au Québec est loin d'être un boulet ou une dépense pour le gouvernement. Elle estime au contraire qu'il s'agit d'un incontournable pour le développement de l'économie du Québec. Statistiquement, les nouveaux arrivants ont plus tendance à se lancer en affaires, mais aussi le Québec a besoin des immigrants pour maintenir la force de sa main-d'œuvre. Et là, je la cite, « Les personnes en âge de travailler sont en décroissance. Pour le Québec, c'est à partir de maintenant. Il faut être très compétitif et stratégique. Il y a des millions de personnes qui bougent dans le monde. Ils sont jeunes et scolarisés. Ils cherchent des endroits où s'installer. » Ce papier était signé dans Le Droit par Julien Paquette. L'éditorial de Brigitte Breton ce matin dans Le Soleil est consacré aux impôts. Payer sa juste part d'impôts et elle dit que l'étau se resserre encore. Pour atteindre ses cibles budgétaires, le Conseil des ministres doit déterminer aujourd'hui quel autre tour de vis il doit donner pour compresser les dépenses de l'État. L'étau devrait aussi se resserrer sur ceux qui privent Québec de revenus et qui limitent sa capacité d'offrir de bons services publics parce qu'ils travaillent au noir, hein, on comprenait bien que c'est là qu'elle voulait aller, qu'ils font de l'évitement fiscal ou qu'ils dirigent leurs avoirs vers des paradis fiscaux. Le Québec assumerait annuellement des pertes fiscales de quelques 800 millions de dollars, évalue le ministère des Finances en extrapolant les résultats d'une étude réalisée par Gabriel Zucman, qui était en 2014 professeur adjoint à la London School of Economics. Toujours en utilisant la même étude, le ministère estime à 47 milliards de dollars les capitaux québécois placés dans des paradis fiscaux. Est-ce que vous voulez que je vous redonne ce chiffre?
S'il vous plaît, oui.
Alors, attention, ouvre pas trop ta bouche, parce que je veux dire, sinon tu vas perdre ta langue.
Non, mais je suis assis.
Bon. Toujours en utilisant la même étude, le ministère estime à 47 milliards de dollars les capitaux québécois placés dans des paradis fiscaux. Et pendant ce temps-là, on se crêpe le chignon aux élections sur des bêtises. Bon, vous me direz, c'est au fédéral. OK, mais enfin, alors qu'il y a des gens, oui, mais il y a des gens ici qui crèvent de faim, Seigneur Dieu, puis en tout cas, 47 milliards, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. J'en viens pas. Des dollars qui font évidemment saliver lorsqu'on voit les difficultés du gouvernement à équilibrer les finances publiques, à assurer l'accessibilité des soins de santé, à fournir des services aux élèves en difficulté. Des dollars qui font rager la classe moyenne, qui trouve le poids fiscal à porter de plus en plus lourd. Alors évidemment, la lutte aux paradis fiscaux s'avérera efficace si elle est menée à l'échelle internationale et c'est le travail entrepris par l'OCDE. Néanmoins, à son niveau, le Québec peut déployer des actions pour récolter une juste part d'impôts de tous, dit Mme Breton. $1 investi pour contrer l'évasion fiscale rapporte entre 9 et 10 dollars. Hein? Donc, $1 investi pour contrer l'évasion fiscale rapporte entre 9 et 10 dollars. C'est donc un investissement rentable. Il faut saluer le mandat d'initiative entrepris la semaine dernière par la Commission des finances publiques qui examinera le phénomène du recours aux paradis fiscaux. Un exercice qui se veut non partisan et qui permet de s'attarder à la colonne de revenus de l'État plutôt qu'uniquement à celle des dépenses. Un exercice qui devrait permettre d'identifier de nouvelles pistes à explorer pour s'assurer que tout le monde paie son dû, pas seulement le particulier ou la petite entreprise qui n'ont pas les moyens de recourir aux services d'ingénieux avocats, fiscalistes ou comptables ou qui jugent immoral la planification fiscale agressive ou abusive. J'ai vu un reportage récemment dans une émission française. En France, ils ont mis sur pied un programme de volontariat, c'est-à-dire de recouvrement de revenus mis de côté sur une base volontaire. C'est-à-dire ils sont allés dire à ces gens qui mettent des millions, parfois des milliards d'argent de côté aux Bahamas ou aux îles Caïmans, ils leur ont demandé de volontairement se déclarer, c'est ça. Eh bien, ils ont recouvré, je ne me souviens plus la somme exacte, mais c'est plusieurs milliards d'euros qu'ils ont réussi à recouvrer grâce à ça. Et ils disaient dans ce reportage-là qu'ils n'en revenaient pas à quel point la réponse était finalement positive. Ce qui veut dire que ces gens-là en cachent peut-être encore, mais au moins, il y a eu un geste.
Une partie est revenue.
Il y a eu une partie. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose un jour qu'on verra apparaître ici au Québec, mais ce serait de bonne guerre. Voulez-vous que je vous donne le chiffre? 47 milliards de dollars, les capitaux québécois placés dans des paradis fiscaux.
Ça ne dit pas détenu par combien de personnes, hein?
Non. Non. À la tribune maintenant, honte à Obus, écrit Pierre-Yvon Bégin dans son éditorial. Marcel Obus quitte la présidence du Comité olympique canadien dans la honte, hein, parce que vous savez que maintenant il a donc quitté la présidence. La plainte pour harcèlement sexuel déposée par une employée de la Fondation olympique canadienne a aussitôt été retirée, mettant fin à une enquête interne. L'affaire demeure troublante à bien des égards, dit M. Bégin. Le comité olympique, le COC, savait depuis 5 ans déjà que des allégations très sérieuses pesaient contre l'ex-propriétaire des Nordiques de Québec. L'organisme devra expliquer, dit-il, pourquoi aucune sanction ne lui a été imposée. C'est sûr qu'en quelque part, il y a une complicité, là. Il devra aussi prendre, dit M. Bégin, les dispositions pour bannir à jamais ce genre de comportement. Le comité reconnaît que les allégations au sujet de son président sont extrêmement dérangeantes. En plus d'avoir à justifier le fait que le conseil d'administration a été tenu dans l'ignorance, il devra aussi instaurer une politique de tolérance zéro. C'est d'ailleurs ce que réclame Sylvie Fréchette, celle qui a failli être privée d'une médaille d'or en raison d'une erreur, note avec justesse que le respect des règles constitue la base de l'esprit olympique. La nageuse dit avoir reçu les dernières révélations comme une claque en plein visage. On nous rappelle qu'elle a été médaillée d'or en plongeon aux Jeux de Los Angeles. On parle là non pas de Madame Fréchette, mais de Sylvie Bernier qui partage cette opinion. Marcel, c'est Marcel, tout le monde le connaît. C'est un homme qui aime les femmes, témoigne-t-elle. Étrange façon d'aimer les femmes, mes propos combien révélateurs d'un malaise dans son entourage. Par déférence au personnage, lui pardonnait-on trop facilement ses écarts de conduite? C'est la question que tout le monde se pose. Thank you. Et puis enfin, à la une du quotidien, sa souffrance comme levier, je me demandais de quoi il s'agissait. Il s'agit d'un homme qui a choisi de se reconstruire en aidant les enfants démunis du Cameroun. Et c'est lui donc qui fait la une du quotidien ce matin. Dans le cadre de son engagement humanitaire, Pascal Thibault a côtoyé des centaines d'enfants, dont une petite fille, Marie-Douce, qui a conquis son cœur et même il l'a adoptée. Il l'espère l'avoir à ses côtés dans un an. La petite fille, âgée de 4 ans, fait partie de ces enfants qu'il côtoie dans la communauté Notre-Dame du Mont-Carmel à Yaoundé, au Cameroun, où il s'implique depuis 2006. Chaque fois qu'il prononce le nom de sa petite fille, le visage de Pascal Thibault s'illumine. Il n'a partagé la nouvelle qu'en toute fin d'entrevue, tel un secret. Il dit « J'ai eu un coup de cœur pour elle. Les enfants là-bas l'appellent déjà la petite Canadienne. Elle est petite, c'est sûr qu'elle ne réalise pas tous les changements que cela représente pour elle. J'aurais voulu trouver avec vous et sûrement vous aussi, voilà, trouver la paix en aidant. » À l'âge de 5 ans, agressé sexuellement à répétition par son père, Pascal Thibault trouvait la paix en regardant les émissions de Vision Mondiale. Et dans son fort intérieur, il sentait déjà qu'un jour, il œuvrerait auprès d'enfants africains qui, comme lui, ont connu la souffrance dès les premiers pas dans la vie. Et bien, c'est aujourd'hui, âgé de 43 ans, qu'il réalise son rêve depuis 2006. Donc, il s'en va au Cameroun, à Yaoundé, tous les ans. Il s'occupe de ces enfants-là et en plus, il va en adopter une. C'est du grand bonheur pour M. Thibault qui fait la une du quotidien et c'est tant mieux et mérité. Et on continue les voies de service et nous allons cette fois-ci à l'international. Voilà un titre que je ne m'attendais pas à lire un jour. Au moins 17 morts dans des inondations en France. La Côte d'Azur dévastée par des pluies torrentielles. 17 personnes sont mortes dans le sud-est de la France et 4 sont portées disparues après des inondations dévastatrices provoquées samedi soir par des orages d'une rare intensité sur la Côte d'Azur où la saison touristique bat encore son plein. Le déluge de pluie a été très violent et concentré, a souligné le préfet des Alpes-Maritimes, Adolphe Colrat, alors que le soleil brillait à nouveau hier sur la Côte d'Azur. En certains endroits, il est tombé 180 mm de pluie en 3 heures, autrement dit 1,80 m en 3 heures. Les pluies ont notamment entraîné la crue du petit fleuve côtier de la Brague, submergeant des rues de Cannes, Antibes, Mandelieu, Villeneuve-Loubet et Nice. La plupart des victimes ont été noyées dans leurs voitures, piégées dans des stationnements en sous-sol. Le président Hollande, qui a exprimé la solidarité de la nation, s'est rendu sur place avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Il a rencontré des habitants encore traumatisés. Il y a toujours eu des catastrophes, mais leur rythme, leur intensité sont renforcés, a jugé François Hollande, appelant à prendre des décisions pour le climat à quelques semaines de la Conférence mondiale sur le climat, COP21. Accueillie par la France. La situation la plus dramatique est celle de Mandelieu, la Napoule, une commune limitrophe de Cannes où l'on compte 7 morts et un disparu. Des lames d'eau ont surpris des habitants descendus dans les stationnements souterrains de leur résidence pour mettre à l'abri leurs véhicules. L'eau est tellement opaque que les pompiers ne voient pas les corps. C'est apocalyptique, a décrit le maire Henri Leroy. Écoutez, je vois des photos de voitures totalement détruites les unes sur les autres. À un moment donné aussi, il y a des voitures qui étaient vraiment toutes stationnées sur le bord d'un trottoir. Et le vent a soulevé l'arrière de toutes les autos, si bien que toutes les voitures sont encastrées les unes sur les autres, comme ça exactement. Vous savez, comme un petit peu un effet domino, là, quand on pousse un domino, puis que ça, eh bien, c'est ça, elles sont totalement encastrées les unes sur les autres. Oui, on peut voir ça éventuellement dans le nord, on a déjà vu ça aussi en Bretagne, des coups de vent comme ça sur la Côte d'Azur. Je dois dire qu'à l'âge vénérable que j'ai, c'est bien la première fois que j'entends parler de ça. « Et dans la presse, on revient sur la tuerie en Oregon. C'est Richard Etu, dans sa collaboration spéciale, qui signe ce papier de New York, où il se trouve, en parlant de son fils. Ian Mercer, auteur de la tuerie en Oregon, a soulevé samedi une question parfaitement rationnelle. Comment a-t-il été capable d'accumuler un tel arsenal? Je vous rappelle que c'est le papa du garçon qui se pose cette question-là. Chris Harper Mercer, qui n'avait pas vu son père depuis 2013, disposait de 14 armes à feu. 14. 6 d'entre elles ont été récupérées sur le campus de l'université d'Umpqua, avec un gilet pare-balles et des munitions, et 8 dans l'appartement que le jeune homme de 26 ans partageait avec sa mère. Selon la police, ces armes avaient toutes été achetées légalement. La réponse à la question d'Ian Mercer n'a rien de rationnel. Pour le démontrer, il n'est pas inutile de parler un peu du shérif du comté de Douglas, si vous préférez, où s'est produite la fusillade de jeudi dernier. Cheveux en brosse, visage sévère, John Hanlon a notamment retenu l'attention la semaine dernière en refusant de nommer l'auteur de la tuerie. Il ne voulait pas le glorifier, ce dont personne ne lui fera reproche. Mais le shérif est l'incarnation même de l'opposition la plus virulente à toute nouvelle loi restreignant l'accès aux armes à feu aux États-Unis, loi qui aurait pu empêcher que la tuerie en Oregon ait lieu, selon le père du tireur. John Hanlon est ce que les Américains appellent un « gun nut ». Le terme s'applique aux gens qui défendent le droit de porter des armes en employant des arguments absolutistes ou paranoïaques. Le shérif d'Oregon, par exemple, a publié sur sa page Facebook en janvier 2013 une vidéo faisant écho à la théorie de conspiration suivante. Le massacre de l'école Sandy Hook, qui a fait 26 morts, dont 20 enfants, le 14 décembre 2012, aurait été orchestré par le gouvernement fédéral pour justifier le désarmement du public par le truchement d'une nouvelle législation sur le contrôle des armes à feu. La vidéo laissait aussi entendre que les parents des enfants prétendument abattus étaient des acteurs. Oh, on est en droit de se demander, a écrit John Hanlon à propos de la vidéo, on est en droit de se demander à qui l'on peut encore avoir confiance. 3 jours après avoir publié la vidéo parano, le shérif du comté de Douglas a envoyé une lettre enflammée à Joe Biden, à qui Barack Obama avait confié le mandat de préparer un projet de loi pour prévenir la violence faite avec des armes à feu dans la foulée de la tuerie de Sandy Hook. Citation ici, « Le contrôle des armes à feu n'est pas la réponse pour prévenir les crimes haineux comme les fusillades dans les écoles », a écrit ce shérif en avertissant le vice-président de ne pas toucher ou amender le 2e amendement de la Constitution américaine. C'est assez incroyable. Ici, quelques derniers mots. Cette attitude découle en grande partie, dit Richard Etu, d'une interprétation hautement contestée du 2e amendement, interprétation que l'ancien président de la Cour suprême américaine, Warren Burger, avait décrite en 1991 comme l'une des plus grandes fraudes perpétrées contre le public américain par des groupes d'intérêts spéciaux. Puis avez-vous remarqué, on parle déjà beaucoup moins de la crise des migrants, que je continue à appeler la crise des réfugiés, et pourtant elle pourrait s'aggraver pendant l'hiver, écrit Danica Kirka à Zagreb pour Le Devoir. Un mois après la publication de la photo du petit Alan Kurdi, noyé sur une plage turque, et une semaine après la conclusion d'une entente des pays de l'Union européenne sur les migrants, la crise ne défraie plus les manchettes des journaux, mais elle n'est pas pour autant moins grave. Alors que les migrants continuent d'affluer vers le nord et l'ouest de l'Europe, les organismes humanitaires se préparent à poursuivre leur travail pendant l'hiver. Ils craignent d'ailleurs que les problèmes ne s'aggravent avec la chute des températures. Un représentant de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés dans la région des Balkans croit que ce mouvement des populations vers l'Europe de l'ouest n'est pas près de ralentir. Babar Baloch a affirmé qu'on ne voyait actuellement que la pointe de l'iceberg. Plus d'un demi-million de gens ont traversé la mer Méditerranée vers l'Europe cette année, soit le double du bilan pour toute l'année dernière. Ces migrants ne proviennent pas tous de Syrie. Ils quittent l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan et l'Érythrée pour fuir la guerre et la pauvreté. Alors, l'Union européenne a reconnu l'ampleur du problème la semaine dernière, alors que les pays se sont entendus pour renforcer la sécurité aux frontières et pour verser au moins 1 milliard d'euros. Ça représente à peu près 1,4 milliard de dollars canadiens, pour verser donc cet argent à la Turquie, au Liban et à la Jordanie pour les aider à gérer l'afflux important de migrants. Les nouvelles mesures de sécurité à la frontière ne seront pas en vigueur avant le mois de novembre. Et une proposition pour déléguer plus de pouvoir à l'Agence européenne des services frontaliers ne sera déposée qu'au mois de décembre. La Macédoine, le corridor principal pour les migrants qui se rendent vers la Grèce, se prépare à recevoir une masse de réfugiés pendant l'hiver. Les autorités installent des planchers et du chauffage dans les tentes au camp de réfugiés de Gevgelia et les organismes fourniront des vêtements chauds et des couvertures. Alors non, ça ne fait plus la manchette, mais oui, ça afflue encore par dizaines, par centaines, par milliers en Europe. Ces gens qui fuient la guerre, ne les oublions pas. Nous avons abondamment parlé tout à l'heure avec Gisèle Lalande de la Russie qui multiplie ses frappes en Syrie, ainsi que de Médecins sans frontières qui dénoncent ce crime de guerre qu'a été ce bombardement qui vient tout droit des États-Unis, bombardement en Afghanistan, et l'organisme humanitaire qui se dit écœuré par le bombardement de son hôpital. Je ne reviendrai pas là-dessus maintenant. Si vous voulez réentendre l'excellente chronique que nous a préparée Gisèle Lalande sur le sujet, je vous recommande d'aller sur notre site internet. Vous pourrez réentendre ça vraiment quand bon vous semblera. Simplement, vous allez sur le site www.vuesetvoix.com, vous allez sur émission, vous cliquez sur émission et là vous allez voir l'émission Les Voix de Service. Je pense que le problème est réglé, maintenant on peut. Et là vous allez pouvoir réécouter l'émission et éventuellement la chronique de Gisèle Lalande et celle d'ailleurs de tous les collaborateurs qui viennent à l'émission Les Voix de Service chaque jour. Sinon, Le Monde en bref. La vieille ville interdite aux Palestiniens à Jérusalem après la mort de 4 Israéliens jeudi dernier. L'armée israélienne a tué hier un jeune Palestinien en Cisjordanie occupée, tout en affirmant livrer une guerre totale au terrorisme. Les autorités israéliennes ont également bouclé pour 2 jours la vieille ville de Jérusalem aux Palestiniens. Ça ne regarde vraiment pas bien, mes amis, de ce côté-ci. On a peur que ça s'enflamme à nouveau. Au Portugal, malgré 4 ans d'austérité, le premier ministre du Portugal, Pedro Passos Coelho, a réussi le tour de force de remporter les élections législatives d'hier. La coalition sortante de centre-droit a recueilli 38,6% des suffrages contre 32,4% pour le Parti socialiste de l'ancien maire de Lisbonne, António Costa. Et puis, je vous le disais un petit peu plus tôt, mais aux États-Unis, les pluies torrentielles qui s'abattent depuis plusieurs jours sur une partie du sud-est des États-Unis pourraient provoquer des inondations sans précédent. La Caroline du Sud était particulièrement touchée. Et je vous rappelle le bilan provisoire en France qui est de 17 morts et 4 disparus, alors qu'on a connu une catastrophe sans précédent, un orage du feu de Dieu comme on n'a jamais connu sur la Côte d'Azur en France. Thank you. Vous aurez reconnu le thème. C'est l'heure de passer au culturel. Je commencerai par l'amour au temps des émoticônes. C'est un papier de Luc Boulanger dans la presse ce matin qui nous présente, si tant est qu'on ne le connaisse pas encore, et c'est pas évident qu'on le connaisse, ce comédien et scénariste à qui l'on doit notamment Nouvelle Adresse, qu'on a vu dans Nouvelle Adresse et le court-métrage primé Toutes des connes. Il s'appelle Guillaume Lambert et il publie un premier roman actuel et sulfureux. Tel un double masculin de Nelly Arcand, nous dit Luc Boulanger dans la presse, l'auteur y aborde la sexualité gay et débridée à l'époque 2.0. Au cours de l'entretien, Guillaume Lambert utilisera trois fois le mot « spectateur » au lieu de « lecteur », comme dans « Je voulais que le spectateur se sente voyeur ». La quatrième fois, il finira par se rendre compte de son lapsus. Faut dire que Lambert vient du milieu du théâtre et de la télévision. D'ailleurs, il affirme avoir fait un roman par hasard. La forme s'est imposée en cours d'écriture. Par élimination, dit-il, je ne voyais pas de pièce, ni de scénario, ni de série avec ce texte. Tant mieux, dit M. Boulanger, car ce premier roman, c'est presque une longue nouvelle et l'une des très belles surprises de la rentrée littéraire. Entre la confession et le journal intime, l'auteur a créé une fiction teintée de vérité à propos d'une passion d'amour entre deux hommes et surtout de sa brusque rupture. À travers l'échec amoureux, le narrateur aborde les névroses et les obsessions propres à notre époque, c'est-à-dire Facebook, Instagram et SMS, qui sont ses plus fidèles amis. Et dès le titre, Guillaume Lambert donne le ton « satyriasis », qui signifie « l'exagération morbide du désir sexuel », mot qu'il juxtapose à « année romantique », une histoire qui sera douloureuse mais pas tragique, parce qu'il y aura un petit peu d'humour là-dedans apparemment, des commentaires sur la technologie et les médias sociaux. « Je voulais pousser à l'extrême la forme du journal intime, dit-il, l'épanchement des gens à exposer leurs souffrances et à se confesser en public. » Alors on verra, j'ai hâte de voir si Vues et Voix enregistrera ce livre « Satyriasis » signé par Guillaume Lambert. Et puis j'ai envie de vous quitter, tiens, sur un rire, la politique du rire, un drôle de monde, écrit Richard Boisvert du Soleil. Vous savez, le collègue Jean-Simon Gagné collectionne les blagues depuis au moins 20 ans. Il a pris l'habitude d'en glisser au moins une à la fin de chacune de ses chroniques et plus il en publie et plus ses lecteurs lui en envoient. C'est un petit peu un cycle sans fin. Alors après toutes ces années, le temps était venu de mettre de l'ordre dans cette abondante moisson et de publier les meilleures histoires dans un recueil. La politique du rire, qui paraît demain aux éditions du Septentrion, est consacrée à l'humour politique à saveur québécoise et canadienne. Il contient quelques 150 histoires drôles, parfois grinçantes, parfois même cruelles, mettant en vedette les Labaume, Charest, Chrétien et autres harpeurs de ce monde. L'ouvrage est le fruit d'une étroite collaboration. Les blagues qu'il reçoit, Jean-Simon les soumet à sa compagne, la journaliste Pascale Guéricola, qui de son côté se charge de les trier, de retenir les meilleures et les plus drôles et d'écarter celles qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont plus du tout au fait du diapason de notre société. On en a quelques-unes, en voici quelques extraits. Par exemple, le maire de Québec, Régis Labaume, vient de mourir. Alors il se dirige vers l'entrée du paradis, mais là évidemment, il y a une imposante file d'attente. Alors il demande la priorité. Saint-Pierre est alerté par ce chahut, parce qu'évidemment, là, il y en a qui rouspètent. Il appelle Dieu sur son téléphone cellulaire. Et Saint-Pierre dit à Dieu, « Dis donc, il y a un type qui veut passer à tout prix, là. Il dit s'appeler Régis Labaume. »« Arrêtez-le !» répond Dieu. « Il s'agit d'un imposteur. Régis Labaume, c'est moi. » Allez, j'en ai une autre, vite fait. Gérald Tremblay, ancien maire de Montréal, devant la commission Charbonneau le 25 avril 2013, aurait déclaré « Je ne suis pas au courant de tout ce que j'ai appris. » Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse surtout en compagnie de Kevin Breton qui va vous présenter le bulletin du handicap. Je voudrais remercier mon camarade Mathieu Tessier à la régie et je vous donne rendez-vous demain matin à 9h, non sans vous souhaiter une excellente journée. Salut.
Bonjour, mon nom est Marie-Laurence Paré. Je suis chargée de projet à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Vous écoutez Canal M, la radio.
Le bulletin du handicap. Bonjour à vous tous, mon nom est Kevin Breton et voici les manchettes en ce lundi 5 octobre 2015. Ouverture d'un commerce pleinement accessible sur l'avenue Mont-Royal. Dégénérescence maculaire, un premier patient va recevoir une greffe de cellules souches. Un aréna plus accessible et écologique au coût de 7 millions à Clément Jeté. Michel Trudel honoré lors du congrès annuel de l'IATR. Et au sport, tennis en fauteuil roulant, Gilbert stoppé en demi-finale. Le 29 septembre dernier avait lieu l'ouverture officielle de la nouvelle fromagerie bleue et persillée située au 1475 de l'avenue Mont-Royal. Il se veut le commerce le plus accessible de toute l'avenue, tel que le stipule le titre. Le communiqué stipule également qu'au Québec, il n'y aurait que 50 % des commerces qui sont accessibles aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant. La fromagerie de M. Franck Hainaut, aussi propriétaire de l'Intermarché Boyer, sera sans contredit le commerce le plus universellement accessible de toute l'avenue, sinon de Montréal, du moins en ce qui concerne les commerces ayant pignon sur roue, rien de moins. M. Hainaut a vraiment mis le paquet afin qu'aucune barrière physique n'empêche quiconque d'accéder à son établissement, qui est de plein pied et qui est muni d'un ouvre-porte automatique. M. Hainaut le voit comme un investissement et non comme une dépense. Il souhaite qu'il y ait de plus en plus de commerçants qui soient de cet avis et qui suivent son exemple. Franck Hainaut va bien au-delà des normes d'urbanisme trop peu restrictives et il n'écoute son cœur en se disant que les quelques 15 % de la population en situation de handicap peuvent avoir accès aux mêmes services et aux mêmes produits de qualité que tous les autres. Il mentionne aussi que l'accessibilité profite à bien des gens. Il dit « Depuis l'ouverture, 5 mamans sont venues me remercier personnellement alors qu'elles étaient avec leurs poussettes. » Le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec salue cette avancée extraordinaire en matière d'inclusion et remercie infiniment M. Hainaut en souhaitant longue vie aux Bleus et Persillés. Un laboratoire britannique va tester l'implant de cellules souches de l'œil à un patient pour soigner un problème de vue. Si le test se révèle fructueux, cela pourrait améliorer la vie de millions de personnes qui souffrent de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Une petite révolution pour les millions de personnes souffrant de dégénérescence maculaire entraînant une perte de la vue. Un laboratoire britannique s'apprête à greffer pour la première fois sur un patient des cellules souches qui pourraient permettre à son œil de retrouver toutes ses facultés. Rien qu'en Grande-Bretagne, 700 000 personnes seraient concernées par ce problème de malvoyance. Les résultats de cet implant devraient être connus d'ici le mois de décembre, après un premier test sur une patiente qui sera opérée au Mercyfield Eye Hospital de Londres, spécialisée dans les problèmes ophtalmologiques. D'autres greffes pourront être réalisées pendant un an et demi, comme l'explique le journal The Guardian. Le greffon est composé de cellules d'œil, l'épithélium pigmentaire rétinien, la couche cellulaire la plus externe de la rétine, cultivées dans un laboratoire et qui vont former ce qu'on appelle un patch, le recouvrant. Pendant l'opération, ce patch sera placé derrière la rétine, dont la partie endommagée cause la perte d'acuité visuelle. Le but de cette chirurgie va être de reconstituer les cellules de la partie voyante de l'œil, qui n'est pas encore affecté parce qu'il deviendrait un environnement de plus en plus toxique, causant alors une détérioration de l'œil et une perte sérieuse de vision. Le groupe de patients choisi par les équipes du professeur Pete Coffey, responsable de cette étude, souffre de dégénérescence maculaire sévère. En testant cette technique sur eux, les chercheurs espèrent renverser ce phénomène de perte de vision. Le professeur Coffey indique « Il s'agit d'une réelle opération chirurgicale, mais nous allons essayer de la rendre aussi simple que la chirurgie de la cataracte. Le procédé pourrait prendre entre 45 minutes et une heure, ce qui réjouit le spécialiste. Dans des délais pareils, nous pourrons traiter un nombre substantiel de patients. » Après des mois de travaux, l'aréna Clément Jetté s'est refait une beauté grâce à un investissement de 7 millions de dollars. Dans le cadre du programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux, l'aréna est maintenant plus accessible et écologique. Les travaux effectués sont majeurs à l'aréna de l'avenue du Buisson dans Mercier-Est. Le système de réfrigération au fréon a été remplacé par un système à l'ammoniac. Des équipements de ventilation et de déshumidification ont été ajoutés. L'éclairage a été amélioré et des mesures d'économie d'énergie ont été mises en place permettant au bâtiment d'atteindre la certification, dis-je bien, LEED argent. Les vestiaires, les salles de bain, les bandes de patinoires, les bancs des joueurs, les revêtements au sol et la peinture ont tous été revampés. Une rampe d'accès pour les personnes en fauteuil roulant et des portes automatiques permettront à tous de bénéficier de ces nouvelles installations. Le coût des travaux a été partagé entre la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. C'est un texte de Steve Caron pour le journal Métro. L'organisme montréalais Kérol tient à féliciter Michel Trudel pour l'honneur qui lui a été rendu par l'International Association of Transportation Regulators, l'IATR, lors de son 28e congrès annuel qui s'est tenu à Montréal du 27 au 30 septembre. Michel Trudel a d'abord été présenté de la North American Transportation Regulator de 1992 à 1994, puis président de l'IATR. Il a été membre de l'exécutif jusqu'en 2001. Dans son mot de bienvenue, le président de l'IATR, Matthew Dawes, a souligné son grand plaisir de tenir le congrès 2015 à Montréal parce que c'est ici que tout a commencé. En effet, c'est lors du congrès de 1992, organisé ici même par Michel Trudel et Richard Boyer, que la NATR a pris son envol international. L'exécutif de l'IATR compte maintenant des représentants de la Grande-Bretagne, de Singapour, de l'Australie et bien sûr des États-Unis et du Canada. Après sa carrière au ministère des Transports et au ministre du Tourisme du Québec, Michel Trudel s'est joint à l'équipe de Kérol en 2010 à titre de responsable des relations gouvernementales et internationales. Il a notamment été chargé de l'organisation du sommet mondial Destination pour tous, qui s'est tenu à Montréal en 2014. Il est aussi le secrétaire du comité sur l'accessibilité universelle de l'industrie du taxi de Montréal, créé par le conseil d'administration du bureau du taxi de la Ville de Montréal, lequel comité est présidé par André Leclerc, président-directeur général de Kérol. Les recommandations de l'organisme concernant la disponibilité des taxis accessibles aux personnes handicapées seront présentées lors du congrès en cours de l'IATR. Et maintenant, en terminant au sport, Éric Gilbert et son partenaire de double en tennis au fauteuil roulant, le Français Johan Kilyou, ont été défaits en deux manches de 6-2 en demi-finale du double masculin du championnat PTR de tennis en fauteuil dimanche à Hilton Head qui se déroulait en Caroline du Sud. Le duo a perdu face aux deuxièmes têtes de série, les Britanniques Mark McCarroll et David Phillipson. La pluie a retardé le tableau du samedi à un point tel que le match de demi-finale a été reporté à dimanche après-midi. Gilbert, classé 61e au monde en double, a commenté « J'ai joué un match solide, j'ai bien servi et réussi à maintenir les échanges, sauf que nos adversaires ont mieux joué que nous. » Il poursuit en disant « Mon partenaire a aussi fait du bon boulot et il a gardé le fort du mieux qu'il le pouvait. Je suis content de notre performance en double et c'est de bon augure pour le tournoi de Montréal qui aura lieu la semaine prochaine. L'athlète de 43 ans sera donc de retour à la compétition au stade Uniprix à compter de jeudi. Plus tôt dans le tournoi, Gilbert et Kilio avaient remporté les quarts de finale contre Philippe Bédard de Bromont et son acolyte américain Atif Moon en deux manches de 7-6 et 6-3. Donc, c'était tout pour le bulletin du handicap d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Les organismes intéressés peuvent nous envoyer leurs nouvelles à canalem@vusevoix.com. Merci et à demain.